Bonjour à tous, bienvenue dans le débat de midi. Ravi de vous accueillir autour de la grande table de France Inter. Les canines sont prêtes à se mouvoir, tout comme nos cortex d'ailleurs. Ici, on se nourrit de discussions et on est plutôt gourmand en la matière, on se refait pas. Et aujourd'hui, le plat principal du débat sera l'histoire de France. Tiens d'ailleurs, on dit histoire de France ou les histoires de France. De nombreuses discussions à ce propos montent régulièrement en première ligne de l'actualité. Alors pour certains, l'histoire de France se lit d'un seul bloc, alors que d'autres souhaitent y intégrer, eh bien par exemple, l'histoire de l'immigration, une histoire des femmes, une histoire des invisibles, afin de nourrir un roman national longtemps figé. Mais alors, comment intégrer l'histoire sans réécrire l'histoire? Tiens d'ailleurs, roman national, est-ce que ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui? Nombreux sont ceux à ne pas s'y reconnaître, et notamment quand il est détourné à des fins politiques. Et puis, il y a aussi cet enseignement de l'histoire, au moment où certains voudraient déboulonner des statues. L'histoire est-elle encore un terrain de lien entre citoyens ou désormais de division? On en discute. Et au final, comment faire comprendre, comment faire connaître aussi l'histoire? Et faire comprendre que l'histoire est une chose importante, notamment, vous savez, pour répondre quand on vous dit, attends, après Napoléon, c'est De Gaulle, non? En tout cas, le débat de midi, on dresse le couvert, on ouvre la discussion tout de suite avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages vocaux et vos messages écrits via l'appli France Inter. Le débat de midi, ça commence tout de suite.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi sur France Inter.
Et autour de la table du débat de midi, nous recevons comme convive aujourd'hui Mathilde Larrère. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne donc à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, spécialiste des mouvements révolutionnaires. Vous enseignez l'histoire des femmes également. Christophe Naudin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire en collège, co-auteur du livre Charles Martel et la bataille de Poitiers aux éditions Libertalia. Et Jean Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, universitaire français, spécialiste d'histoire politique. Vous êtes professeur émérite à l'université d'Orléans et vous présidez le comité d'histoire parlementaire et politique depuis 2002. Alors, au départ, juste une petite question simple. Mathilde Larrère, est-ce que vous avez vous-même l'impression que l'histoire de France fait plus débat aujourd'hui qu'auparavant ?
Non, pas du tout, parce que de toute façon, elle a toujours fait débat. Et d'ailleurs, c'est le propre du travail historique que, oui, de réfléchir à cette histoire longue des débats sur l'histoire. Donc, c'est pas neuf, hein, il y a toujours eu des discussions, même des attaques contre ce que l'on appelle maintenant le roman national. Mm-hmm. Moi, par exemple, je sais que quand j'ouvre... J'ai un cours sur ces questions-là et je fais lire aux étudiants un texte de Seignobos, hein, qui est un texte...
Qui est Seignobos ?
Alors Seignobos, c'est un des fondateurs de l'école positiviste, c'est un historien de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et dans un cours qu'il donne sur la question de l'enseignement de l'histoire, hein, il attaque l'histoire dite à la Lavis, donc après ce que l'on va retrouver dans le cadre du roman national. Et franchement, quand on fait lire ce texte, qui est un texte, alors je sais plus là s'il est 1906 ou 1909, mais mm-hmm, c'est entre ces deux années, quand on le fait lire à des étudiants maintenant, ils ont l'impression d'avoir un texte très contemporain, parce qu'en fait, justement, ces questions, ces critiques qui peuvent être faites, ces débats, ces interrogations sont très anciennes.
Oui, c'est ça. Alors, Jean Garrigue, en effet, vous parliez à l'instant, Mathilde Larrère, de façon Lavis, hein, Ernest Lavis, donc auteur donc de cours d'histoire. Il y avait cette phrase que j'avais retenue de lui: l'enseignement de l'histoire aux tout-petits doit être une suite d'histoires comme les racontent les grands-pères à leurs petits-enfants. C'était en 1913. Jean Garrigue, on a un peut évoluer depuis, non ?
Oui, heureusement. Non, l'histoire, elle doit être en permanence critiquée, sollicitée, réfléchie et modifiée, en tout cas par les historiens. Mmh. C'est un objet vivant et il a toujours été vivant. On se souvient au 19e siècle de toutes les querelles autour de l'interprétation de la Révolution française. Il y a eu autant de visions de la Révolution française, j'allais dire, que d'historiens à cette époque, et des grands courants, et les affrontements étaient extrêmement virulents. Donc c'est très sain, au contraire, de réfléchir à l'histoire. Et c'est vrai que ce récit, ce roman national qu'on enseignait aux petits Français de la Troisième République, aujourd'hui ne peut plus être le même, parce que la France a évolué, les mentalités ont évolué, la manière de réfléchir a évolué. Donc voilà, il faut en permanence réviser finalement notre conception de l'histoire.
Alors Christophe Naudin, est-ce qu'il y a justement une différence aujourd'hui dans la manière d'enseigner l'histoire en 2023 qu'auparavant ? Est-ce que ça a changé ?
Alors si je m'affaire ça, par exemple, parce que j'ai vécu moi dans les années 80, la grosse différence, déjà il y a beaucoup plus de participation des élèves, moi dans les années 80 au collège et au lycée, il y a du cours magistral, on apprenait par cœur les dates, des chronologies, etc. Là on travaille beaucoup plus sur les documents et ça vient beaucoup plus des élèves en fait. Donc ça a changé. Après les programmes aussi ont en partie changé. Donc les débats, effectivement, je suis d'accord avec deux autres intervenants, ils ont toujours été. Voilà, si on prend l'exemple de ce sur quoi on a travaillé avec William Charles Martel, voilà, il y a eu des moments où il y avait du débat, d'autres moments il disparaissait, mais voilà, ça a toujours existé depuis l'école de Lavis, effectivement. Donc là ce serait plus la façon d'enseigner. Moi, on met plus les élèves en activité, on les fait plus réfléchir sur des documents. On fait quand même de la chronologie toujours, parce qu'on entend souvent qu'il y a plus de chronologie.
Voilà, c'est ça longtemps. Oui.
À l'école, ce qui est totalement faux. Hein. Il suffit de regarder les programmes. J'ai bien dit les programmes, mais pas les manuels seulement, parce que on travaille de moins en moins aussi sur les manuels.
D'accord.
Mais voilà, j'ai l'impression en tout cas, après on peut critiquer sur plein de choses, mais que les élèves sont moins passifs que moi je l'étais à leur époque, par exemple.
C'est ça.
On les aide plus à réfléchir que voilà, ils sont pas là pour ingurgiter des connaissances. Ils sont là pour essayer un petit peu de comprendre et d'interpréter. On essaye, en tout cas.
Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Mathilde Larrère, on parle, comme je disais, des histoires de France plutôt que de l'histoire de France?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle l'histoire de France, oui. Qu'on appelle des histoires de France. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, on remplace ce qui ressemblait à un récit unitaire, donc ce qu'on a déjà évoqué, roman national, oui. Ou récit national, qui était un récit finalement très centralisateur, très patriotique, très téléologique aussi, parce qu'il s'agissait, on l'a construit pour donner l'impression que toute l'histoire de France allait vers le but qui était l'instauration de la République et du progrès qu'elle permettait de donner. Et en fait, voilà, cette façon d'enseigner, elle a été remplacée par des récits beaucoup plus multiples, juxtaposables, parce que justement, l'histoire s'enrichit de tous ces récits, et c'est ce qu'évoquait Monsieur Garrigue, à savoir que, on s'est mis à travailler sur les femmes, on s'est mis à travailler sur les dominés, sur les colonisés, sur les esclaves, cette histoire par en bas, elle a enrichi l'histoire par en haut, qui à un moment s'imposer pour des raisons politiques, mais s'imposer aussi parce que c'était ce sur quoi on avait travaillé de façon principale. Et par ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de France, on s'est de plus en plus rendu compte que la France, elle évolue pas isolément et que en fait, on travaille sur du transnational, on travaille sur les échanges entre la France et d'autres espaces, et des échanges qui ne sont pas à un seul sens, France étant le centre émetteur et le reste du monde étant la périphérie destinataire. Mais voilà, on travaille sur la façon dont tout ça circule, s'enrichit, d'où l'idée d'une histoire mondiale de la France, hein, c'était le titre de l'ouvrage dirigé par Patrick Boucheron, et qui montre que finalement, ça n'a plus toujours de sens de parler que de la France, parce que l'isoler complètement, c'est passer à côté d'une réalité, d'une complexité, d'un intérêt sur cette histoire.
Oui, alors Jean Garrigue, vous-même, s'il y a des histoires de France, ou il y a, on peut encore le dire, l'histoire de la France?
Non, moi je souscris totalement à ce qui vient d'être dit par Mathilde Larrère. Cette vulgate de la Troisième République, dont on voyait l'objectif qui était un objectif politique et je dirais national, cette vulgate ne peut plus être considérée comme notre manière de faire de l'histoire. Il s'est enrichi, Mathilde l'a dit, de l'histoire des femmes, l'histoire de la colonisation, l'histoire des enfants, etc. Tout ça enrichit l'histoire, et il y a encore énormément de domaines. Vous avez des gens comme Alain Corbin qui ont exploré le domaine de l'histoire des sensibilités, par exemple, ou des parfums, des odeurs, enfin toutes les pistes comme ça qui vont venir enrichir et complexifier l'interprétation qu'on peut se faire d'une société, donc la rendre de plus en plus présente, parce que toute société, toute période historique est extrêmement complexe, et tout ce qui va amener des petits points de détails, ou alors qui va amener une autre perspective, est un enrichissement pour les historiens. C'est quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre pour ceux qui ne sont pas forcément historiens, ou pour les politiques, par exemple, qui ont besoin de choses assez simples, parfois même de récits très simplistes. Mais nous, notre métier d'historien, en tout cas, c'est justement d'aller vers cette complexité, cet enrichissement par tous les regards différents qu'on peut porter sur l'histoire.
Et pourtant, Jean Garry, on voit certaines personnes plus conservatrices que d'autres qui ont aujourd'hui craignent, entre guillemets, que ces, entre guillemets, je fais exprès, ces nouvelles histoires remplacent, entre guillemets, le récit que l'on a pu apprendre jusqu'à présent.
Oui, ça c'est un grand courant politique qui coïncide avec une droitisation d'ailleurs de la société française, et où on voit émerger cette sorte de nostalgie d'un récit national unitaire, d'ailleurs dont les éléments qui sont là encore empruntés à des notions très subjectives. Je veux dire, par exemple, d'une France chrétienne, d'une France même catholique, liée à l'Église, etc. Et l'on voit bien à quel point ces récits nationaux qu'on veut essayer de retrouver dans le passé ne coïncident plus avec notre société. En tout cas, je pense que, d'ailleurs, la plupart de mes collègues historiens seraient d'accord avec moi, il nous appartient à nous d'essayer de combattre ces visions unitaires, parce que elles produisent du faux, elles produisent des choses qui ne correspondent pas à la réalité, et en plus elles sont néfastes pour ce qui est aujourd'hui la construction de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça passe par une vision la plus pertinente possible et la plus actuelle possible de la manière dont on considère notre histoire.
Et pourtant, Mathilde Larrère, on le voit, ce sont des gens qui ne pensent pas forcément être eux-mêmes conservateurs, mais qui ont appris ça. Donc pour eux, aujourd'hui, ils ne comprennent pas toujours cette évolution de l'enseignement de l'histoire, ou le fait qu'il peut y avoir plusieurs portes d'entrée à l'histoire de France. C'est compliqué aussi de parler de temps en temps entre générations avec ça.
Oui, ils le comprennent très très bien.
Je vous assure qu'il y a des personnes qui eux-mêmes, c'est normal, ils ont grandi là-dedans et ils se disent, c'est comme ça qu'on me l'a appris, donc ça doit être la vérité.
Oui, on leur a appris comme ça des éléments de science et n'empêche, ils sont très contents d'apprendre des trucs nouveaux. Donc non, je pense que c'est des choix politiques, c'est-à-dire que effectivement, c'est des discours qui montrent que le pouvoir a été contesté, contestable, renversé, que on leur place les dominants et les dominés, que on ne peut pas uniquement parler des hommes en oubliant les femmes. Donc c'est des querelles politiques, mais après il faudrait voir des cas particuliers.
Bien
mais
sûr.
Je pense que les gens sont pas du tout. D'abord, les gens sont pas idiots. Donc ils voient très bien que c'est autre chose qui se joue derrière, et que et par ailleurs, a priori, postulons le fait que tout le monde a envie d'en savoir plus et qu'on n'a pas envie de s'enfermer et de se fermer à des connaissances nouvelles. Si on veut s'y fermer, c'est parce que ce sont des voix qu'on ne veut pas entendre. Et donc là, dans ces cas-là, c'est des voix qu'on ne veut pas entendre, c'est des histoires qu'on ne veut pas entendre, c'est des choix politiques qui relèvent d'exclusion de la société. C'est-à-dire qu'on veut exclure des gens de la société, donc on veut exclure le récit de leur histoire dans l'enseignement ou la diffusion, parce que ça, c'est à l'école que ça se joue, mais ça se joue aussi, évidemment, sur les plateaux, sur les tables des librairies, etc.
Christophe Naudin, vous-même, quand vous rencontrez des parents d'élèves, il peut y avoir aussi, comme je disais, un peu ce fossé générationnel par rapport à ce qu'on a pu apprendre auparavant en histoire, ce qu'on apprend aujourd'hui.
Alors, par rapport aux parents d'élèves, pas forcément, mais par exemple sur la bataille de Poitiers, donc sur laquelle on a travaillé avec William, là, on a fait pas mal de rencontres en librairie, devant des publics très différents. Et il y avait souvent, quand on relativisait la place de la bataille dans les manuels scolaires, par exemple, et encore plus dans les programmes, beaucoup de gens de notre génération ou un peu plus âgés disaient « Mais moi, j'ai appris pourtant en 732, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. » Et on disait en fait, vous avez peut-être appris la phrase, souvent, même moi d'ailleurs, j'avais appris, mais vous n'avez pas appris tout le reste, et d'où ça vient, les conséquences, etc. Et c'est ce qu'on peut aujourd'hui essayer, même si c'est pas tout à fait dans le programme, mais on peut rentrer dans le programme de 5e, par exemple, parler de cette bataille et montrer toute la complexité, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, la complexité des choses. C'est un très bon exemple, cette bataille. Donc, les gens se disent, moi, ils ont un souvenir, souvent, on m'a appris ça, je retiens vaguement ça, 1515 Marignan, mais en fait, ils savent pas du tout ce que c'est Marignan. Et quand ceux que j'ai pu rencontrer notamment en librairie ou autour de ce bouquin-là, était plutôt effectivement ouvert au dialogue. Après, quand c'est des politiques ou des polémistes ou autres qui disent « Ah, c'était comme ça avant », et parfois c'est pas le cas en plus, hein, ils ont une vision...
Ils fantasment
sur ce qu'était l'anciennement de l'histoire par le passé, et effectivement c'est plus parce qu'ils veulent imposer eux leur discours. Donc ça, mais c'est de la politique, quoi.
Jean Garrigue, tout à l'heure, je vous disais par rapport à une histoire de France ou des histoires de France, pour vous, quand vous rencontrez des élèves, quand vous rencontrez des gens aujourd'hui, c'est quelque chose d'acté, je veux dire, dans la tête aujourd'hui des élèves, des enseignants, qu'il peut y avoir en effet plusieurs portes d'entrée à l'histoire ?
Oui, en tout cas du côté des enseignants, ça me paraît une certitude, parce qu'eux-mêmes ont été, ont rencontré une nouvelle manière de faire de l'histoire, de parler de l'histoire. J'ai un petit, un petit doute vis-à-vis des étudiants en histoire, parce que il me semble, mais c'est peut-être parce que je suis un professeur sur le déclin, mais j'ai cru ressentir du côté des étudiants, une certaine désaffection, un certain désintérêt pour la matière historique elle-même, quelque chose qui ne relevait plus de l'enthousiasme de générations précédentes. Et je crois qu'il faut le relier, même assez étroitement d'ailleurs, à une certaine manière d'être désabusé, notamment par le débat public, par la politique. Et l'histoire nourrit le débat public. L'histoire est un moyen de référence nécessaire et indispensable au débat public. Et j'ai l'impression que cette désaffection que personnellement il m'a semblé ressentir, elle était liée justement à ce qui se passe au-delà donc des frontières de l'université ou des salles de classe. Et donc je pense qu'il y a tout un travail aussi pour essayer de réhabiliter la force, l'intérêt de l'histoire, et justement les nouvelles pistes dont on parle, l'histoire des femmes par exemple, ou l'histoire de l'écologie, de l'environnement, sont des pistes qui à mon sens sont positives pour essayer de réenchanter l'histoire. Bon, j'ai peut-être une vision trop négative, mais il me semble quand même qu'il y a un travail à faire de ce côté-là.
Et Christophe Naudin,
alors moi, si je vois par rapport aux élèves notamment, vous êtes de collège, hein, je précise, parce que je parle de ce que je connais. L'intérêt, c'est pour moi, et mes collègues d'autres matières me le disent, c'est la matière la plus facile à apprendre, en fait, l'histoire qui intéresse, et la géographie, ne l'oublions pas.
Bien sûr. Ça serait une autre émission.
Oui, mais ça va souvent, va vraiment ensemble. Et il y a vraiment un intérêt. Après, dans les rencontres que j'ai pu faire autour des bouquins qu'on a fait, évidemment, les gens viennent, donc ils sont intéressés a priori. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un intérêt. Après, le souci, c'est que ce qui me concerne, c'est que l'histoire aussi dans les médias, Mathilde Harre l'a un petit peu dit déjà, l'accès que les gens ont à l'histoire, c'est pas forcément déjà l'histoire universitaire.
Bien sûr.
Il y a une
Vulgarisation, oui.
C'est apparemment une vulgarisation, parce qu'une vulgarisation, c'est quand on donne accès au plus large public au travail universitaire. Ce qu'il y a dans la plupart des médias aujourd'hui, c'est pas de la vulgarisation, c'est justement un roman national qui est idéalisé, qui est conservateur, etc. Et quand parfois il y a des émissions qui ne sont pas dans ce sens-là, elles disparaissent. Il y a de l'intérêt parce que les gens, en fait, nous, quand on a fait les historiens de garde avec William Blanc et Aurore Chéry, on parlait justement de ces gens comme Stéphane Bern, Laurent Deutsch, Franck Ferrand qui prétendent faire de la vulgarisation. Et donc, qui sont très présents, un peu moins maintenant, mais il y a 10 ans en tout cas, qui étaient très présents dans les médias. Ils disaient, les gens s'intéressent à l'histoire. C'est vrai. Les gens s'intéressent à l'histoire. Justement, ça dépend en Suisse qu'on va leur proposer. Et les gens sont curieux. Mais quand ils ont ça, ce genre d'histoire en majorité dans ce qu'on leur propose, mais quand il y a d'autres propositions, et il y en a eu sur différentes antennes, ils regardent aussi, en fait.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant, juste avant, à faire une petite pause musicale, avec un titre de Séverin qui peut nous rappeler un peu l'histoire, mais alors là, très très loin, puisqu'il s'intitule « Nouveau dinosaure ».
Qui rêve encore de l'Amérique ? Ce shopping mall pas démocratique. différent maintenant, mais qui peut encore rêver tout court quand tout est flippant aux alentours. Tout est si différent maintenant, en attendant bien patiemment la fin du monde, quelle liberté d'être condamné après ces années de culpabilité. Agissons enfin sans conséquence. Salut patron, on se verra en vacances. Tout est si différent maintenant, en attendant bien patiemment la fin du monde. La fin du monde, la fin de nous. C'est nous les nouveaux dinosaures. On finira au musée dans un décor. Et sur la pancarte en gros caractère, homme en terrasse buvant un verre et qui attend bien patiemment la fin de son air. 2, 3, 4.
France Inter. Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
Le débat de midi, on parle histoire d'ailleurs ce midi. Y a-t-il une ou des histoires de France? Comment l'enseigner aujourd'hui? On parle de roman national, bref, tout ce qui fait débat autour de l'histoire. Et pour en parler ce midi, nous avons autour de la table Mathilde Larère, historienne et enseignante, à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, également Christophe Naudin, professeur d'histoire en collège, et Jean Garrigue, historien universitaire français. Alors Mathilde Larère, tout à l'heure, Jean Garrigue, juste avant le disque, nous disait, il y a peut-être, voilà, je le sens un tout petit peu, voilà, en nous disant, mais un peu comme ça, qu'il y a moins d'appétence pour l'histoire, mais on va dire l'histoire presque classique, de la part des élèves. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense qu'il y avait plusieurs choses dans ce que disait Jean Garrigue. C'est sûr qu'il y a eu un moment où, pour des raisons politiques, une génération d'étudiants et d'étudiantes se sont massivement impliqués dans les études d'histoire, notamment d'histoire contemporaine, parce que ça rentrait vraiment en résonance et en vibration avec des engagements politiques qui étaient les leurs. Et peut-être ce temps-là, actuellement, est moins présent. Pour autant, je ne sens pas de baisse d'intérêt pour l'histoire comme discipline, comme matière. Ils aiment qu'on leur en parle. Enfin, tout ça se passe très bien. Non, par contre, ce qu'il y a, c'est que les études d'histoire, le fait de faire de l'histoire à l'université, et ça va toucher la socio, et ça va toucher les lettres, et ça va toucher la philo. Il y a de fait de moins en moins d'étudiants et d'étudiantes qui choisissent ce type d'études, parce que c'est des études très longues. C'est des études dont on sait qu'elles ne donneront un travail qu'après, au mieux quand même un master, donc 5 ans. Et ce sont des études qui, de plateau télé en plateau télé, on nous dit elles ne sont pas professionnalisantes, elles sont inutiles. Enfin, voilà. Et on pâtit de cette image négative du savoir, de ce type d'enseignement. Je vous dis, ce n'est pas propre à l'histoire. Hein. Oui. Et comme si ce n'était pas utile. Et qui se traduit aussi dans notre pays par le fait, enfin, en Angleterre et dans d'autres pays. Là, je cite l'Angleterre parce que j'ai lu quelque chose récemment là-dessus. Mais quelqu'un qui a une thèse d'histoire peut faire plein de boulot. En fait, il n'est pas du tout coincé.
Cantonné
ensuite.
À ça.
Voilà, c'est-à-dire que c'est reconnu comme finalement des études qui donnent des compétences, un savoir-faire, une capacité de synthèse, de réflexion, d'esprit critique. Enfin, bah, plein de trucs super. Mmh. Sauf qu'en France, ben voilà, moi je connais plein de thésards et de thésardes. Mais qui ne trouvent pas parce qu'on enferme ces études là-dedans. C'est ça qui est absolument désolant parce que on en pâtit. Donc on a moins d'étudiants. En revanche, quand on les a dans l'amphi, si on se donne dans le cours, c'est du bonheur pour eux et pour nous.
Jean-Garry, tout à l'heure, vous parliez aussi d'étudiants peut-être moins intéressés par l'histoire que par aujourd'hui l'actualité, les faits de société. Vous diriez que il y a un mélange pour beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire de mélanger actualité, faits de société et histoire.
Non, mais moi, je crois que ceux qui sont passionnés par l'actualité, par toute forme d'engagement, accèdent très facilement à l'histoire et sont justement, font partie de ces étudiants passionnés. Ce que je disais tout à l'heure, oui. Ça a été d'ailleurs décrypté par Mathilde Larère, je parle effectivement d'une génération qui était plus politique que celle d'aujourd'hui et qui effectivement accédait beaucoup plus à l'histoire, à la sociologie, à d'autres disciplines de
juste
ce
pour
type.
Qu'on comprenne aussi, bien, effectivement... Juste pour qu'on comprenne bien, Jean-Garry, de quelle génération vous parlez quand vous dites cette génération.
Je parle de la génération de celle qui a fait par exemple mai 68 ou de la génération des années 80, au moment de l'alternance. On a des générations là qui, me semble-t-il, étaient plus impliqués dans la curiosité de l'histoire. Ça, c'est un constat que j'ai fait en tant qu'universitaire et en étant de plus en plus, comment dirais-je, motivé pour rendre plus passionnant le récit historique, sans tomber dans les excès ou dans ce qu'on disait à propos des vulgarisateurs entre guillemets de Franck Ferrand ou Stéphane Bern. Alors. À ce propos, moi je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire que c'est utile aussi qu'il existe des Stéphane Bern, des passeurs de ce type, mais en sachant bien que le type d'histoire qu'il propose, qui effectivement est plutôt tourné vers une forme de récit unitaire, un récit national qui s'intéresse surtout aux élites, aux monarchies, aux dynasties, etc., ce type de récit n'est qu'une toute petite partie de cette archipel de manière de faire de l'histoire et que effectivement il faut donner aussi la parole à ceux qui essaient de proposer d'autres pistes historiques et d'autres émissions qui renvoient à une plus grande complexité des sociétés. Donc voilà, chacun a sa place, mais je crois qu'il y a toujours eu des passeurs, il y a eu des Alain Decaux il y a une trentaine d'années, des gens comme ça, c'est utile aussi. Il faut pas les rejeter, mais en sachant bien qu'ils proposent une vision de l'histoire qui est très partielle, subjective et parfois, je dirais, presque fantasmée.
Oui, Mathilde Larrey.
Oui, enfin, je voulais réagir à deux choses. Je suis évidemment d'accord sur le fait qu'il faut des passeurs et qu'il faut il faut vulgariser et j'essaye de le faire à ma petite échelle et on est nombreux et nombreuses à essayer de le faire, donc évidemment qu'il en faut. Le problème de Bern, Deutsch et les autres, c'est pas seulement que c'est évidemment que ce qu'ils transmettent est d'abord un récit historique qui pour une bonne partie est faux. Ne correspond pas aux sources, ne correspond pas à l'historiographie contemporaine. Mais c'est surtout qu'on n'entend que.
Ouais.
C'est-à-dire que, ok, pourquoi pas, mais s'il y en avait d'autres aussi. Le problème, c'est qu'il y a quand même une énorme... Et on n'entend que même sur des chaînes publiques. Et là, c'est problématique que le public, télé comme radio, donne la parole à des historiens. Je ne fais pas historien-historienne, parce qu'il se trouve que c'est que des hommes, tiens, c'est étonnant, qui... qui font un récit lequel a été largement critiqué et démonté. Et l'autre chose pour parler du roman national, moi ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, bon, ce qu'on appelle le roman national...
Alors, on va y venir dans un instant, mais je voudrais juste avoir là-dessus Christophe Naudin, juste sur, en effet, on parlait, Jean Garrigue et Mathilde Larrère évoquaient ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire en gros, c'est ces journalistes, présentateurs qui présentent en effet des émissions d'histoire. Quand Jean Garrigue utilise le terme de passeur, tout de même, c'est vrai qu'on se dit, tiens, voilà, si je regarde une émission, alors parce que les thèmes sont souvent clichés, hein, c'est souvent le masque de fer, l'assassinat d'Henri IV, voilà, des choses comme ça. Mais on peut peut-être accrocher aussi avec ça et se dire derrière, ah bah tiens, je vais me renseigner là-dessus et puis après, on va peut-être plonger justement dans l'histoire.
Peut-être, mais déjà, oui, alors déjà, c'est intéressant de se demander ce qu'ils veulent passer, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'est-ce qu'ils passent. Les sujets, après, on fait une différence quand même avec William Horror, dans les Historiens de Garde, on a fait une différence entre Laurent Deutsch, Stéphane Bern et
Franck Ferrand,
entre autres. Par exemple, Stéphane Bern, il cache pas qu'il, voilà, qu'il est fasciné par les têtes couronnées, c'est etc. Ça. Et c'est vrai qu'il peut, ses émissions donnent la parole à certains historiens, quand même, de plus en plus. Même si parfois c'est toujours les mêmes, mais il en fait venir d'autres aussi selon les sujets. Mais c'est vrai que ça peut donner envie de. Moi j'en avais parlé par exemple avec l'ancien responsable du château de Blois. Ben, il a dit oui, je sais que il va pas forcément toujours dire des choses historiquement très justes, mais au moins les gens viennent au château de Blois. Donc ça pourquoi pas. Mais effectivement il faut quand même qu'on puisse les situer. Et quand c'est des gens comme Franck Ferrand qui en plus font une parlent d'histoire de France interdite, de choses qui flirtent parfois avec le complotisme, là ça pose quand même problème. C'est pas selon moi des passeurs. Laurent Deutsch, c'est pareil. Moi, l'idée de départ, avant qu'on travaille dessus, quand le métronome, c'est une idée que je trouve vraiment très bonne.
Ah oui, l'idée
d'ailleurs,
est très bonne.
Ouais, mais le problème, c'est que c'est ce qu'il a mis dedans ensuite. Et ensuite, effectivement, il y a le fait qu'ils prennent autant de place.
Voilà. Bien sûr, dans les médias. Alors, Mathilde Larrère, vous parliez à l'instant, je vous ai coupé, sur le roman national. C'est un mot qu'on a beaucoup utilisé depuis le début. Pour vous, d'ailleurs, est-ce que, juste sur cette appellation roman national, est-ce que vous trouvez qu'on l'utilise encore beaucoup en 2023, comme on a pu l'utiliser auparavant dans l'histoire, quand certains l'utilisaient énormément? Est-ce que ce roman national, aujourd'hui, les Français peuvent l'utiliser? On voit certains candidats qui l'ont utilisé pendant la campagne, pour certaines idéologies, mais est-ce que ce roman national, aujourd'hui, est encore, ça représente encore quelque chose?
Alors, il faut dire, il y a deux choses. Il y a le mot... Ouais. Et il y a ce que ça décrit, sachant que ce que ça décrit évolue aussi dans le temps. Donc le mot, il apparaît dans les années 90, et c'est surtout Pierre Nora qui va le lancer. Sans doute a-t-il été dit avant, mais voilà, c'est assez récent en fait, hein, le terme de roman national. Actuellement, finalement, les politiques utilisent plutôt le terme de récit national, et justement, ils font cette différence entre roman.
C'est quoi, comment on peut faire
le roman, il est derrière le terme roman, c'était facile de voir qu'il y avait. On était dans le registre parfois du fantasme. Voilà, un roman, forcément, on est dans la fiction.
On imagine.
Voilà. Avec le récit, on donne une espèce de caractère de scientificité. Que ça fasse mieux. C'est par exemple... Il y a un moment où une partie des hommes politiques de droite parlent de roman national et Jean-Luc Mélenchon va dire ben non, moi je ne suis pas pour le roman national, je suis pour le récit national. Ouais, enfin le problème c'est que c'est un peu la même chose en fait au bout du compte. La question en fait c'est donc qu'est-ce que c'est, voilà, parce que on l'a nommé dans les années 90, mais ce que ça recouvre a été travaillé avant, notamment par l'historienne Suzanne Citron, hein, qui sort le livre qui s'appelle Le mythe national et qui montre comment a été construite cette façon d'écrire l'histoire. Donc il y a deux choses à dire. C'est une façon de faire de l'histoire. Donc c'est de faire un récit linéaire, téléologique, qui s'appuie sur des événements et des grands hommes, et qui, résultat, a ses figures imposées. Ben voilà, Marignan 1515, le vase de Soissons, tout, on les connaît, et ce qui est fou, c'est qu'on les connaît justement très bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le récit national. Et ce qui est intéressant, je vais essayer d'être rapide parce que je veux laisser la place à mes camarades, mais ce récit, ce roman national, quand il est fabriqué, alors il est fabriqué en fait sous le Second Empire, quand l'école, quand l'histoire devient obligatoire à l'école avec la loi du Ruy, mais il est vraiment construit avec la vis sous la Troisième République. Et l'idée est de faire une histoire de France qui aille vers la République et qui montre que la nation et la République, c'est des grandes choses. Donc, le récit national, au début, est plutôt, si l'on peut dire, à gauche, avec bon, un aspect très colonial, parce que la République, à ce moment-là, est coloniale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ceux-là qui continuent à se saisir du roman national s'en revendiquent et voudraient qu'on l'enseigne plus et considèrent que c'est une catastrophe qu'on ne l'enseigne plus, bah, c'est plus la gauche, c'est la droite. En gardant les aspects coloniaux, hein, on est passé d'un discours de nostalgie coloniale où tout discours qui, justement, permet de montrer la complexité devient repentance. Bref. Donc, il y a un glissement qui est intéressant, quand
c'est
même.
C'est ça. Alors, juste, Jean Garrigue, pour vous, ce roman national, aujourd'hui, c'est toujours un terme d'actualité. Comme le disait aujourd'hui Mathilde Larrère, qui est plutôt, en effet, aujourd'hui repris peut-être par la droite. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce que certains essayent de l'écrire toujours aujourd'hui?
Il est d'actualité dans la bouche d'un certain nombre de politiques qu'on vient d'évoquer, qui en font un usage totalement antithétique de ce que je considère moi comme l'histoire, et notamment comme l'histoire de la République. Donc, j'allais dire que ce qu'on appelle aujourd'hui roman national, c'est un danger, c'est presque une perversion par rapport à ce que le plus grand nombre devrait savoir et connaître de son histoire. En revanche, qu'il y ait besoin pour une nation ou pour une société, n'importe quelle époque ou n'importe quelle latitude, d'avoir des points de repère emblématiques, symboliques, parfois incarnés dans telle ou telle personne, et qui sont utiles pour tracer un parcours collectif, un parcours mémoriel parfois. Moi, je trouve ça tout à fait utile. Ça l'a toujours été, et ça l'était évidemment beaucoup pour les hommes de la Troisième République, qui étaient en train de construire un système qui était la démocratie parlementaire et libérale, avec tous ses défauts, mais en tout cas, ils étaient en train de le construire. Donc, moi, je pense que ce type de points de repère sont évidemment utiles, mais on n'a pas besoin d'en faire un roman national ou même un récit national. Il suffit de se référer à ces points de repère et de profiter des occasions qu'on peut avoir de se souvenir de ces occasions mémorielles, justement pour faire un travail d'historien, aller le plus précisément possible et de la manière la plus complexe possible dans la connaissance de ces personnages ou de ces moments qui ont jalonné justement notre parcours national.
Alors ça veut dire aussi, Christophe Naudin, donc qu'il pourrait y avoir dans notre parcours national, roman national pardon, un roman national de droite, un roman national de gauche?
Ah, mais il y a un roman national de droite et un de gauche, mais...
Donc c'est compliqué d'avoir un roman national si chacun se revendique aussi.
En fait, il ne faut pas de roman national.
Ouais, voilà, il ne faut pas de roman national du tout. C'est ça. Moi, justement, en classe, avec les collégiens, je n'ai pas l'impression, et tant mieux, de faire ni un roman ni un récit national, même si le récit, on l'utilise, attention. Hein, mais on ne fait pas de récit national. Après, pour les repères, moi, je suis d'accord avec M. Garrigue, il faut des repères. Le problème, c'est qu'après, c'est quel repère? Ça, c'est une question politique, et là, on parle dans qui fait les programmes. Enfin,
bien sûr,
oui. Parlerait mieux que moi. et en ce qui concerne avec les programmes qu'on a sous la main, parfois, c'est vrai que ça, c'est la liberté pédagogique. Il y a peut-être certaines choses qui apparaissent très peu dans les programmes qu'on va faire ressortir. Par exemple, la Commune de Paris, c'est pas le truc. Et pourtant, moi, j'essaie d'en parler un petit peu. Quand j'avais des quatrièmes, et je vais en avoir un nouveau, j'essaie d'en parler un petit peu plus, de faire un petit peu plus de place que d'autres choses qui sont... jouer sur des repères où aussi beaucoup, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de l'intérêt des élèves et des étudiants pour l'actualité. Ce qui est intéressant, c'est l'actualité des commémorations. Effectivement, on rebondit beaucoup là-dessus. Ou alors même l'actualité tout court. Par exemple, la guerre en Ukraine, il y a plein d'élèves qui ont plein de questions. En général, c'est vos profs d'histoire qui posent des questions sur l'actualité. Et ça permet ensuite de... Par exemple, avec les troisièmes cette année, quand on a parlé de l'Ukraine dans les années 30, avec l'URSS, etc., il y a eu plein de choses sur lesquelles on pouvait rebondir et se jouer aussi sur les repères de cette façon-là. Quoi.
Ouais, c'est ça, Mathilde, tout est une affaire de repères, c'est ça. Chacun, aujourd'hui, se positionne en fonction des repères qu'il veut enseigner.
Non, je dirais pas comme ça. Bon, après, moi, c'est pas la même chose. J'enseigne à la fac. J'ai pas de programme avec lequel je joue. Non, enfin, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on nous à la fac, on choisit notre cours et on le fait de telle sorte. Il y a une historienne, alors j'ai oublié son nom, mais qui est une historienne italienne et qui dit que toute histoire est contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'historien est quelqu'un qui pose au passé des questions qu'il les pose du présent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de poser donc des questions du présent, des questions contemporaines au passé. Et ces questions, c'est les questions que vont se poser aussi les étudiants et les étudiantes. Donc, on essaie de voir ce qui va les intéresser, ce qui va leur donner envie. Parfois, ensuite, d'aller voir des programmes plus compliqués qui ne répondront pas forcément à des questions qui s'étaient posées à la base, mais on va les faire rentrer dans le dur après. On va les attirer sur des questions... Voilà, histoire de l'environnement, c'est sûr qu'en ce moment, ça marche pas mal. Histoire des femmes, ça marche bien aussi. L'histoire des homosexualités il va y avoir bientôt des cours sur la transidentité, ça intéresse. Ça veut pas dire qu'en faisant ça on se plie à une demande, on céderait à quelque chose. Non, il y a une demande sociale, il y a une demande sociale de questionnement. L'histoire et les historiens, les historiennes, on les outils pour y répondre, et ça fait partie de notre boulot de répondre
à cette
demande sociale.
C'est moins, on va dire, je prends exprès ce terme, moins rigide qu'auparavant, c'est-à-dire par exemple sur l'enseignement de l'histoire, je reprends parce que on le voit depuis le début, la récit national, roman national. Est-ce qu'aujourd'hui on est plus ouvert, tout simplement, à notre histoire.
En fait, tout dépend des espaces, parce que je pense que dans le secondaire, c'est toujours assez rigide. Et d'ailleurs, ça s'est renforcé pour le lycée avec les programmes Blanquer, qui sont plus rigides qu'ils ne pouvaient l'être par le passé, ce qui a été dénoncé par pas mal d'associations et dans en enseignante en histoire et d'universitaire. Mais à la fac, ça fait longtemps qu'à la fac, on enseigne en fonction... Mais c'est parce que c'est en fonction de ce qu'on cherche et de ce que cherchent les collègues. Donc, et je vous renvoie à ce texte de Seignobos. Seignobos, il dit très bien que c'est autre chose qu'il faut enseigner, il attaque la vis, mais Seignobos, il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux élèves du secondaire. À ce moment-là, le secondaire, c'est pas une question d'âge, c'est les riches. Donc, en fait, il dit, pour les élèves des primaires, c'est-à-dire les enfants du peuple, on va faire le roman national, pour eux, c'est très bien, mais les autres, on va faire un truc plus compliqué, parce qu'il faut former du citoyen. Donc, tout dépend de l'espace dans lequel... moi, je pense qu'il faut faire... Il faut atomiser le roman national partout, c'est-à-dire de la primaire à l'université.
C'est entendu, en tout cas,
France Inter.
Christophe Naudin.
Non, mais je suis d'accord, c'est juste pour dire que dans le cadre du collège et du lycée, moins dans le lycée, le collège, on est aussi quand même dans ce carcan, on doit faire des programmes, surtout en troisième, mais on arrive à trouver quand même des espaces pour parler de tout ça. On y arrive, mais voilà, on n'a pas une liberté totale quand même.
Allez, on continue à parler histoire, puisqu'il y a des choses à dire, mais pour l'instant, on va s'écouter Christine and the Queens avec A Day in the Water.
Do you want to spend the day? Just stay in the water. Just stay like the oil. Nothing hurts your skin. Do you wanna feel the sun? The sun from on the water. Nothing burning your shoulders. Nothing hurts within. Yeah. Do you wanna know? Deeper, 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 deeper. Let go. Softer, get softer, get softer, get softer. Stay in the water, and take another.
sur France Inter.
Le débat de midi, on parle d'histoire, comment elle se fabrique aujourd'hui, l'histoire ou les histoires de France, avec Mathilde Larrère, historienne et à l'université, Gustave Eiffel, à Marne-la-Vallée, Christophe Naudin, professeur d'histoire en collège, et Jean Garrigue, historien et universitaire français. Donc on en a parlé hein, durant cette heure de roman national, aussi comment eh bien les médias s'emparent de l'histoire. Mais alors forcément, Jean Garrigue, par rapport à votre spécialité d'histoire politique, moi ce qui m'intéressait aussi avec vous, c'était justement cette vision de l'histoire des présidents, qu'ont les présidents de la République. Parce que chaque président veut, on a l'impression, installer un peu sa vision de l'histoire, ou même se confronter, non, à un moment à l'histoire.
Ah, tout à fait, ça c'est une certitude, notamment la politique des monuments que chacun a voulu léguer à la postérité, avec toutes les polémiques que ça a suscité depuis le centre Pompidou, le centre Beaubourg que Georges Pompidou avait voulu et que Giscard avait voulu supprimer. Enfin bon, il y a toute une histoire de ça. Non, c'est évident que les présidents de la République veulent laisser une trace dans l'histoire, veulent aussi donner une interprétation, leur interprétation de l'histoire. Ici, ils brûlent souvent les ailes, en général. Qu'ils soient, comment dirais-je, attachés à reprendre ces repères mémoriels dont je parlais tout à l'heure, par exemple vis-à-vis des guerres mondiales ou d'autres événements, ou de la révolte de mai 68, par exemple. Tout ça, ça me paraît une nécessité d'incarnation. Mais moi, ce que je constate, et c'est un constat un peu triste que j'ai fait d'ailleurs dans un livre qui s'appelait « République incarnée », c'est que plus ça va et plus les hommes politiques, et notamment les présidents de la République, essayent au fond d'incarner par délégation. C'est-à-dire que plus ils perdent cette aura de rassemblement qui était en fait la justification même de la Ve République, cette capacité à être des pères de la nation et à rassembler, c'est comme ça que De Gaulle avait conçu la Ve République, plus ils l'ont perdue, et ils ne cessent de la perdre, et plus ils essayent de trouver une forme d'incarnation par délégation, c'est-à-dire par la commémoration, par la célébration de tel ou tel héros de notre histoire, ou de telle période héroïque de notre histoire. C'est un peu comme s'ils perdaient ce lien personnel avec la population, avec les citoyens, et qu'ils essayaient de le reconstruire par le biais de ces moments mémoriels. Alors évidemment, ça pose des problèmes, parce que ça les entraîne à une utilisation plus ou moins, je dirais, plus ou moins objective de ces événements historiques. Ça les entraîne à faire des choix, ça les entraîne à employer des types de discours qui ne sont pas ceux des historiens. Donc il faut qu'en permanence, me semble-t-il, la communauté, entre guillemets, des historiens soit vigilante pour essayer, j'allais dire, de montrer à la fois la complexité et la réalité hein, de ce que ces événements mémoriels peuvent nous enseigner et peuvent nous dire de notre histoire. Et
Mathilde Larrère, d'après vous, est-ce que le grand public, quel que soit le président d'ailleurs, est encore attaché justement à ces efforts de mémoire? J'ai en tête là, par exemple, quand François Hollande avait lancé, ça a été conclu par Emmanuel Macron, tous ces événements autour de 14-18, la première guerre mondiale. Est-ce que finalement aujourd'hui, on s'en souvient encore de ce moment-là? Est-ce que ça a un impact, vous trouvez, vous, quand les présidents s'emparent de l'histoire, ils pensent marquer, et puis en fait, on se rend compte que ça reste pas, vraiment?
Alors déjà, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux choses, en réalité, très différentes dans tout ce que vous venez de dire. C'est l'histoire d'un côté, la mémoire de l'autre.
Ouais.
Et histoire et mémoire, c'est pas la même chose. Et le propre du discours politique est souvent de confondre les deux. Et notre travail, en tant qu'historien et historienne, est de faire la part des choses. C'est d'un côté de faire un travail d'historien et d'historienne, donc de montrer ce qui relève de l'histoire, et d'essayer de voir que, voilà, à côté, il y a des mémoires qui peuvent être conflictuelles, des mémoires qui peuvent être dominantes et d'autres dominées, et c'est vraiment deux choses très différentes. Et ces questions des mémoires, d'ailleurs, elles se transmettent dans des espaces qui ne sont pas forcément les espaces dans lesquels se transmet l'histoire. Donc c'est ça qui est difficile, c'est que les présidents en général, hein, alors, et les hommes et les femmes politiques en particulier, nous font croire qu'ils font de l'histoire. Hein. En fait, ce qu'ils font, c'est essayer de flatter une, deux ou trois mémoires différentes ou ce qu'ils imaginent devoir appartenir à la mémoire nationale. Et quand ils commémorent, etc., c'est des questions de mémoire qui sont en jeu. Et quand on mélange les deux, on ne comprend plus rien au bout d'un moment, en fait. Donc, moi, je ne suis pas du tout qualifiée pour dire si les Français et les Françaises sont contents ou pas qu'on commémore la guerre.
J'ai pas dit content. J'ai dit aujourd'hui, est-ce que ça a un impact comme ça a pu l'être auparavant? C'est-à-dire, quand les présidents se servent de la mémoire aujourd'hui, est-ce que finalement, ça impacte encore sur quelque chose, d'après vous?
Est-ce que c'en a eu tant que ça avant aussi? C'est difficile. C'est-à-dire que de toute façon, quand toute personnalité politique joue, enfin, se saisit du passé pour en fait jouer avec des mémoires, on sait bien que l'enjeu c'est le présent. La question c'est pas de commémorer des choses anciennes, c'est de dire quelque chose sur le présent. Toute utilisation politique, toute instrumentalisation politique du passé est une instrumentalisation au service de combats présents. Enfin, c'est ce qu'on avait montré, on a fait un livre collectif contre l'instrumentalisation politique que Zemmour faisait de l'histoire, et dans lequel ce qu'on montrait, c'est qu'en fait, il ne fait que utiliser le passé au service de haine du présent. Il les utilise pour son sexisme, pour sa misogynie, son racisme, Donc, en fait, ça marche parce que si ça rentre en résonance avec des conflits ou
des thématiques
d'aujourd'hui, ça fonctionne. Ouais, si ça tombe à côté, eh ben plof, hein, ça marche pas.
Christophe Naudin, en effet, quand la politique s'empare de l'histoire aussi, on le disait tout à l'heure, on essaye de vulgariser, là on le voit, c'est toujours, quelle que soit d'ailleurs aussi la tendance, c'est toujours au service d'une ambition.
Ah oui, j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Mathilde Larrère là-dessus, je suis exactement sur la même ligne. Et l'impact des commémorations. Alors si je prends je reviens au point de vue des élèves, enfin de mes élèves.
Bien sûr, ouais, bien sûr.
Un exemple, il y a eu un débat en 2021 par rapport à Napoléon.
Oui.
Moi je pense qu'il faut parler de Napoléon évidemment. Alors commémorer, c'est encore une chose, c'est pas à moi de le dire, mais par contre j'ai profité de ça pour parler un peu plus de Napoléon que les autres années en quatrième. C'est ce genre de choses. Après l'impact que ça a sur les Français, effectivement.
Bien sûr. Oui.
Est-ce que ça en a eu avant, est-ce que ça en a aujourd'hui, je sais pas. Mais effectivement, ça, je suis d'accord avec Mathilde Larrère. Aujourd'hui, c'est pas d'histoire en fait dont parlent les hommes politiques et les femmes aussi certaines. C'est de la mémoire et ils utilisent certaines mémoires, parfois les unes contre les autres, pour faire avancer un récit historique qui est lui politique, etc. Et c'est ça que Monsieur Garrigue le disait. Hein, c'est aux historiens d'essayer d'intervenir pour remettre les choses. Un peu à plat.
Oui, c'est ça, Jean Garrigue, vous, au cours de votre analyse de l'histoire politique, la confusion entre histoire et mémoire pour beaucoup de femmes et d'hommes politiques?
Elle est permanente et à plusieurs reprises, justement, les historiens se sont élevés contre ces mésusages politiques de l'histoire. Je pense que chacun doit rester dans son rôle. Alors, là encore, c'est normal que les politiques aient cette tentation d'avoir cette approche mémorielle de notre histoire. Il nous appartient à nous de remettre un peu les choses à leur place et d'utiliser d'ailleurs ces moments, mais c'est ce que disait Christophe Naudin, pour en tant qu'enseignant, pour essayer de préciser un petit peu les choses, non seulement en tant qu'enseignant d'ailleurs, mais en tant que intellectuel ou en tant qu'intervenant dans le débat public, pour dire on nous raconte des histoires. Je me souviens moi avoir fait une tribune à propos justement d'Éric Zemmour pour montrer à quel point son discours sur l'histoire était un discours mensonger, tout simplement mensonger, et qui s'opposait à des centaines et des centaines d'études d'historiens sur les périodes qu'il avait traitées, que ce soit l'affaire Dreyfus ou Vichy. Donc voilà, il y a là une vigilance des historiens par rapport à ce qui est une utilisation mémorielle
merci,
politique de l'histoire.
Merci beaucoup Jean Garrigue, merci beaucoup également Mathilde Delarère et Christophe Naudin d'être venus débattre dans le débat de midi à propos de l'histoire. À la réalisation, c'était Étienne Bertin, à la technique Guillaume Ficheux, une émission préparée par Constance Villanova, Aloïse Nollet, Savannah Rouellan, et je souhaite de très bonnes vacances à Mathilde Texier. Le débat de midi revient bien sûr demain.